atelier plus juridique, état de droit et agression sexuelle. Pour le faire, on a Mme Rachel Chagnon, qui est professeure au département de sciences juridiques de l'UQAM et coordonnatrice à la recherche.
Oui, coordonnatrice à la recherche, à l'Institut de recherche et d'études féministes.
Voilà, et Émilie Joly, qui est sur le côté légal de la CIC, qui est aussi étudiante en droit. Militante féministe.
Alors, bonjour à tout le monde et merci de rester ici l'estomac vide pour m'écouter. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'on va vraiment parler des aspects plus légaux de l'agression sexuelle et situer dans le temps l'évolution de la notion d'agression sexuelle, vraiment pour que vous ayez le sens que toute la question de l'agression sexuelle, comme toute la question de comment se conçoivent les rapports sexuels entre hommes et femmes, et dans toutes les configurations que vous préférez, là, c'est, ça s'inscrit vraiment dans un continuum qui est un continuum en évolution. Et il n'y a pas de telle chose qu'une façon naturelle de concevoir ce que doit être un rapport sexuel. Beaucoup d'où ce qu'on connaît provient de différents construits sociaux, et ces construits-là évoluent dans le temps et continuent d'évoluer, ils vont continuer d'évoluer. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir aussi à travers la présentation. Moi, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous faire une espèce de topo de ce qu'est l'agression sexuelle à travers le droit, faire un historique de comment la loi a évolué par rapport à ça pour arriver jusqu'à quel est l'état du droit en jour d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on considère être une agression sexuelle. Et je vais passer la parole ensuite pour une période de discussion à ma collègue et à côté, pourrait-on dire. Et là, on pourra commencer à faire une réflexion qui concerne peut-être vous plus directement, et on pourra répondre à des questions que vous avez, à des grandes interrogations profondes et transcendantales qui peuvent vous affecter. La première des choses, et puis je vais commencer avec ça parce que c'est une chose qui me préoccupe. Bon, je ne suis pas une criminaliste de formation, je ne suis pas en droit criminel. Par ailleurs, j'ai un intérêt pour le droit criminel à travers mes autres domaines d'intérêt. Et j'ai toujours eu un intérêt assez particulier. J'ai toujours eu un intérêt particulier pour comment on construit socialement l'agresseur et la victime. Peu importe du type d'agression, là, peu importe de qu'est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on conçoit le criminel dans notre société et comment notre construction générale du criminel socialement affecte notre capacité à accepter que des gens près de nous puissent poser des gestes criminels par ailleurs. Puis on ne fera pas une longue intervention là-dessus, mais je vais juste une petite anecdote et je soumettrai ça à votre réflexion, puis on pourra y revenir par la suite. Quand j'étais jeune, j'écoutais Oprah Winfrey, c'est une des façons par lesquelles j'ai appris l'anglais. Et oui, j'étais une fan d'Oprah. Et elle faisait des émissions, c'était avant qu'elle tombe dans ses trips New Age, dans lesquelles je comprends absolument pas où est-ce qu'elle s'en va. Mais, elle est milliardaire, c'est qu'il faut croire qu'il y a quand même des gens qui la comprennent. Et elle avait fait une émission fascinante sur est-ce qu'on prépare bien nos enfants face à des potentiels d'agression contre des enfants. Elle s'intéressait entre autres à la question des kidnappings et des agresseurs qui kidnappent des enfants pour les agresser et tout ça. Bon, là, on comprend qu'on est dans l'espèce de fantasme américain du danger et que le danger est parmi nous toujours, tout le temps, et qu'il faut vivre dans le danger. Mais ce qui était intéressant de cette émission-là, c'était qu'ils avaient filmé dans un parc. Et pendant qu'ils avaient des parents à l'avant-plan qui expliquaient à la caméra à quel point ils avaient bien préparé leur enfant, justement au fait d'être abordé par un étranger, puis tout ça, puis qu'ils étaient sûrs à 100% que jamais leur enfant suivrait un inconnu, on voyait le petit munchkin de la personne en question partir avec un inconnu, vraiment, et au grand désarroi des parents qui ensuite, bon, on comprend que l'inconnu faisait partie un peu de l'émission, et qui se dit « Mais mon Dieu, c'est pas que j'ai pas appris à mes enfants de pas suivre un inconnu, c'est qu'est-ce qui s'est passé? » Et en fait, le but de cette mise en situation-là, c'est de faire réaliser aux gens que les parents, dans le fond, préparent mal leurs enfants parce qu'on donne à l'enfant un portrait de l'agresseur très stéréotypé, que l'agresseur est nécessairement laid, nécessairement méchant, nécessairement affreux, nécessairement épouvantable. Donc, il a l'air d'un criminel et il y a une telle chose qu'un le criminel et on peut reconnaître visuellement un criminel. Ça a un look particulier, c'est un branding. Et la réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'il n'existe pas le criminel. Il existe des personnes qui commettent des crimes. Il existe des personnes qui commettent des agressions. Et ces personnes-là ont une autre vie, ont une autre existence. Elles ne se résument pas aux gestes qu'elles ont posés. Et autant on est sévère dans notre jugement des gens qui commettent des crimes quand ils sont loin de nous parce qu'on les incorpore à ce portrait général de l'affreux criminel épouvantable et monstrueux, autant lorsque cette personne-là est près de nous, ça nous devient impossible d'accepter qu'elle ait posé un acte criminel parce que ça nous confronte à notre image du criminel idéal. Fin de la parenthèse. Donc, ceci étant dit, maintenant, qu'en est-il lorsqu'on parle d'agression sexuelle? Je ne reviendrai pas, j'avais pris beaucoup de stats. C'est le fun, les stats, ça permet d'illustrer des choses sans avoir l'air d'avoir des préjugés. Mais c'est vrai. Non, mais surtout quand les stats parlent pour nous, je veux dire, ça nous sauve beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, je ne reviendrai pas sur les stats, vous les avez eus ce matin. Je vais juste revenir sur une statistique qui est importante et intéressante à comprendre pour comprendre justement la construction sociale autour de l'agression sexuelle. Les agressions sexuelles sont des crimes systématiquement moins signalés à la police que toute autre infraction avec violence. Donc, on va révéler une agression sexuelle dans 8 % des cas, alors que 40 % des voies de fait sont de façon générale dénoncées par les victimes. Donc, il y a vraiment une pudeur beaucoup plus grande à dénoncer une agression violente lorsqu'il y a une connotation sexuelle à cette agression-là qu'à dénoncer une agression violente en général. Et c'est pas comme si on passait notre vie à la police pour dénoncer des agressions violentes. Il y a 60 % des agressions avec violence qui ne seront jamais dénoncées, peu importe le type d'agression. Ce qui veut quand même dire qu'on passe pas notre vie à crier au loup pour rien. Première chose. Deuxième chose. Une fois que cette agression-là a été dénoncée, les agressions sexuelles sont systématiquement moins souvent investiguées que les autres types d'agressions violentes. Donc, il y a un tri, il y a un filtrage par les forces policières qui est beaucoup plus resserré et beaucoup plus systématique lorsqu'il s'agit d'une agression sexuelle que d'une agression ordinaire. Et finalement, lorsque vous avez passé à travers tout le filtre, que vous avez eu le courage dans 8 % des cas de dénoncer votre agression, que les policiers ont décidé dans un pourcentage d'à peu près de 20 % moins élevé que oui, vous aviez un dossier suffisamment crédible et solide pour qu'on dépose des accusations, mais les condamnations pour agression sexuelle sont systématiquement moins grandes et moins nombreuses que les condamnations pour tout autre type d'agression. Et si on prend en compte que les policiers vont hésiter beaucoup plus à apporter une agression sexuelle devant les tribunaux, ils vont demander un niveau de preuve beaucoup plus élevé pour vraiment déposer des accusations et qu'au final, on obtient quand même moins de condamnations, on peut se poser des questions importantes sur mais quelle est notre perception de ce qu'est une agression sexuelle, une victime et un agresseur. Et la réalité de ça, et c'est triste et c'est encore le cas aujourd'hui, les victimes d'agressions sexuelles demeurent très largement des femmes, surtout des femmes mineures. Les agresseurs demeurent très largement des hommes. C'est un type d'agression qui va être moins dénoncé, moins poursuivi, moins puni. Et cette piètre performance de l'appareil judiciaire, ce sont les mots d'une de mes collègues, le professeur Boisvert de l'Université de Montréal, la piètre performance de l'appareil judiciaire en ce qui concerne la capacité à réprimer de façon efficace l'agression sexuelle est très liée au fait que c'est un phénomène genré. Donc, le contexte genré général, et là, on ne dit pas que c'est toujours comme ça. Donc, il faut comprendre là, ici que je ne suis pas en train de vous dire que tous les hommes sont des agresseurs potentiels, toutes les femmes sont des victimes. C'est pas ça. Là, on parle d'une réalité en nombre, on parle de généralisation, on parle de grands chiffres. On fait le portrait des choses, là, mais on prend la photo là, d'une certaine distance du sol. Et c'est ça que ça donne. Et ça donne que le portrait est triste. Et qu'une des raisons pour lesquelles le portrait est triste, c'est que c'est un crime qui s'inscrit dans un rapport social plus large où encore aujourd'hui, la question de la légalité homme-femme demeure une question qui n'est pas peut-être aussi pleinement résolue qu'on voudrait qu'elle le soit. Et un des indices qui nous permet de dire ça, c'est justement le traitement de l'agression sexuelle. Donc, ceci étant dit, quand on parle d'agression sexuelle, de quoi parle-t-on? L'agression sexuelle est un terme très large qui sert à définir et à désigner toute forme d'activité à caractère sexuel non désiré qui vont des attaques de nature sexuelle aux attouchements, au contact sexuel, qu'il y ait ou pas pénétration, ça n'a pas vraiment d'importance. Depuis 83, là, on va revenir là-dessus plus tard, là, mais depuis 83, on a établi une espèce, premièrement, on a créé en 83 le crime d'agression sexuelle. Avant, ça s'appelait le viol, c'était complètement une autre logique. En 83, on a essayé de changer la perception sociale de l'agression sexuelle. Premièrement, on en a fait une agression neutre. On a admis que autant les hommes que les femmes pouvaient être victimes d'agression sexuelle, alors que l'agression de viol était une agression où la personne violée devait être une femme et l'agresseur devait être un homme pour que les conditions du crime soient remplies. Donc, à partir de 83, on va enlever ce caractère sexué, là, ouvertement sexué de l'agression, et on va créer l'agression sexuelle qu'on va construire selon les principes généraux de l'agression contre la personne, c'est-à-dire avec une gradation et des catégories d'agression. Donc, tout comme c'est le cas pour n'importe quel type d'agression physique, on reconnaît qu'il y a un degré de gravité du crime qui va avec le recours ou non à la force physique et au degré de force physique qui est employé pour le crime. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une agression sexuelle de niveau 1, qui est l'agression sexuelle la moins grave, et je mets le mot entre gros guillemets parce que j'ai personnellement j'ai beaucoup de réserves par rapport à toute cette catégorisation-là. L'agression sexuelle de niveau 1, c'est une agression sexuelle qui ne cause pas ou presque pas de blessures corporelles à la victime. L'agression sexuelle de niveau 2, qui est comme celle middle ground ou celle du milieu, c'est une agression sexuelle armée, donc on va utiliser la menace d'une arme ou on va infliger des lésions corporelles dans l'acte lui-même, là, au cours de l'acte d'agression. Et finalement, vous avez l'agression sexuelle grave, qui est une agression sexuelle qui va blesser, mutiler, défigurer la victime et qui met carrément sa vie en danger. Donc, tapocher un peu, c'est niveau 2. Faire des marques permanente, c'est niveau 3. Et pas tapocher, mais menacer de tapocher, c'est niveau 1. Donc, pour vous donner une idée. Mais c'est la même chose que pour toutes les formes d'agression physique. Menacer de blesser quelqu'un, c'est moins grave aux yeux de la loi que de défigurer quelqu'un à coups de couteau. Donc, c'est le principe qu'on appelle la gradation des peines, et ça fonctionne aussi pour les agressions sexuelles. S'ajoute à l'agression sexuelle comme crime toute une autre panoplie ou toute une panoplie de crimes à caractère sexuel. On a fait particulièrement pris en considération les questions de la fragilité des enfants. Donc, on a créé des crimes spécifiques pour les agressions sexuelles dans lesquels sont impliqués des enfants qui vont être traités différemment. Vous avez aussi l'exploitation sexuelle qui est un crime à part, l'inceste qui est un crime à part, et la bestialité, bon, bref. Les chèvres aussi ont le droit d'être défendues. Je suis désolée, mais c'est... Bref.
Michel, est-ce que tu veux qu'on fasse des questions à
nos yeux? C'est sur ça. Ben, en fait, je vais juste finir ce petit bout-là, puis ensuite je prendrai les questions pour ce bout-là avant de passer au suivant. Donc, ça, c'est pour le crime d'agression sexuelle. En droit criminel, quand on parle de crime, on parle de défense. Donc, toujours dans les types contre la personne, les crimes contre la personne particulièrement, on prévoit des formes de défense qui sont possibles et des formes de défense qui ne seront pas possibles. Je vais revenir là-dessus plus en détail, plus loin dans la présentation, mais retenez à ce moment-ci qu'on reconnaît que les agressions sexuelles sont des crimes où on doit déterminer ou prouver, d'une part, le geste, donc ce qu'on appelle l'actus reus, et la volonté de commettre le geste. Donc, pour que quelqu'un soit condamné pour avoir commis une agression sexuelle, il faut qu'on soit capable de démontrer que la personne avait l'intention de commettre cette agression-là, désirait le faire, ou à tout le moins a agi avec une telle insouciance et imprévoyance qu'elle n'a visiblement montré aucun égard par rapport aux conséquences du geste qu'elle a posé. Et à l'inverse, la défense que l'on permet à une personne qui est accusée d'agression sexuelle, c'est la défense de croyances sincères mais erronées au consentement. Parce que, évidemment, puisque dans le mens rea, le mens rea, c'est que la personne ne voulait pas de cette relation sexuelle-là et qu'on l'a imposée, la défense à ça, mais c'est que je ne savais pas que je l'imposais. Et on a défini en matière d'agression sexuelle très strictement ce qu'est la croyance erronée mais sincère. C'est la démonstration que la personne accusée avait était convaincue que la plaignante ou la personne plaignante avait communiqué son consentement à l'activité sexuelle. Et il faut faire la démonstration que des efforts raisonnables ont été faits pour s'assurer que la personne était consentante. Des efforts raisonnables, ce n'est pas un contrat en trois exemplaires, c'est vraiment de s'assurer qu'au moment où on a commencé l'interaction et tout ça, la personne savait où est-ce qu'on s'en allait, était d'accord et participait de façon volontaire et consentante réellement à cette relation-là. On reviendra là-dessus parce que quand on va faire la petite histoire de tout ça, je vais en reparler. Donc ça c'est le topo de ce que la loi ou le code criminel nous dit par rapport à l'agression sexuelle. Il y avait des mains qui étaient levées? Oui.
Je me demandais au niveau des dommages sur la personne, les dommages psychologiques qui étaient pris en compte.
C'est une excellente question. Les dommages psychologiques sont particulièrement pris en compte au moment de déterminer la peine. Mais tel qu'il est formulé à l'heure actuelle, par rapport à la gravité objective, va-t-on dire, du crime commis, c'est l'impact physique qui est important. Donc, une agression sexuelle où il n'y a pas de menace, où il n'y a pas de contrainte physique, va être une agression sexuelle de niveau 1. S'il y a eu un impact psychologique plus important, ça va être pris en compte pour peut-être punir l'agresseur de façon plus importante, mais sa punition va rester dans la gradation prévue pour le crime de type 1, par ailleurs. Puis j'avais une autre main à côté.
Sinon, il y avait une main ici.
Est-ce que la menace, ça peut être aussi par exemple, comme dans un couple, la menace c'est là, si tu le fais pas, on ne fait plus en couple, parce que ça, c'est une des menaces les plus en compte, c'est vraiment juste la menace de si tu le fais pas, je vais te taper.
Et on évalue la menace selon la réception subjective de la victime par rapport à la menace. Donc, on conçoit l'idée qu'une menace ne sera pas perçue de la même façon dépendamment de la personne qui reçoit cette menace-là, et on prend ça en considération pour évaluer si c'était une menace raisonnablement sérieuse ou pas. Oui.
Comment évaluer le consentement? Parce que là, vous avez dit peut-être que j'ai eu un moment d'absence ou quelque chose, mais il faut que la personne ait consenti. Est-ce que vous avez dit ça à un moment donné?
Oui. Oui, oui, vraiment.
Peut-être qu'il y ait consentement, il faut qu'elle ait consenti.
Oui, mais comment tu veux... OK, mais j'arrive devant la police et j'ai dit, ben oui, je me suis fait violer, nanana. OK, ben comment ils vont évaluer que j'ai consenti ou que j'ai pas consenti? C'est comme, ils n'étaient pas présents, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu. Moi, je vais expliquer ce que j'ai vécu, mais la RSA peut expliquer exactement ce que vous l'opposez.
Tout à fait.
Et c'est pour ça qu'on évalue sur le...
C'est pour ça que c'est problématique.
Et c'est tout le problème est là. C'est là qu'on va voir, parce que toute l'histoire de l'évolution de l'agression sexuelle vient de comment, justement, on construit l'idée du consentement et surtout la crédibilité des personnes qui disent qu'elles n'ont pas consenti versus la crédibilité des personnes qui disent « Ah, oh, moi, je suis sûre qu'elle avait consenti. » Donc, la raison pour laquelle c'est si peu dévoilé, la raison pour laquelle c'est si difficile de porter des accusations, la raison pour laquelle c'est si difficile de condamner, c'est parce que encore aujourd'hui, il est très difficile d'avoir une perspective claire sur ce qu'est le consentement ou l'absence de consentement, parce que socialement, on n'a pas encore déterminé avec, à mon sens, suffisamment de clarté, puis là, ça va être mon moment éditorial, on n'a pas encore déterminé avec suffisamment de clarté qui est réellement coupable quand il y a une agression sexuelle. Est-ce que c'est la personne qui accuse, qui est coupable finalement, ou est-ce que c'est la personne qui est accusée? Et tant qu'on va rester flou socialement sur cette idée-là, ça va continuer d'être flou. La loi ne fait que suivre hein, ce que socialement on veut. Quand la loi prend trop d'avance sur là où est rendue la société, le résultat, c'est que la loi réussit moins bien à s'appliquer. Et en ce qui concerne l'agression sexuelle, le législateur, depuis les années 70, a fait beaucoup d'efforts pour amener l'agression sexuelle vraiment comme un outil de mise en œuvre du respect des droits des femmes à leur propre sexualité. Et ils sont allés vraiment loin. Et depuis 20 ans, les tribunaux, ce qu'ils font, et socialement, et le système de justice, c'est de résister à ça. On est toujours là, il faut constamment... Pour ça, je vous dis, là, c'est rendu la définition de ce qu'est la croyance erronée mais sincère. C'est défini dans la loi. Il y a un article de loi qui énumère par le menu si elle avait trop bu, c'est pas un consentement. Si elle était inconsciente, c'est pas un consentement. Il faut l'énumérer dans la loi tellement on a de la difficulté à avoir un système qui réussit à dire... Je veux dire, c'est quand même pathétique de dire qu'il faut énumérer dans la loi que si quelqu'un a trop bu, il ne peut plus consentir. Il me semble que, je veux dire, moi, si quelqu'un part avec mon argent parce que j'ai pris un coup, puis que je suis un petit peu paf, puis qu'il vole mon cash, puis qu'il part, on va considérer que c'est un vol. Puis on ne dira pas, bien, peut-être qu'elle y a donné. De toute façon, tu sais, elle ne peut pas dire qu'elle ne voulait pas y donner, là. Et pour l'agression sexuelle, c'est différent. Donc, oui, vous avez raison, le problème, il est là. Il continue d'être là. Moi, ce qui me rassure, ce que je vois du côté du droit, c'est que par ailleurs, le droit est de plus en plus clair. Donc, qui sait, peut-être que le reste va suivre. On va voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui?
Oui. Par exemple, je rencontre quelqu'un quelque part, je viens chez nous, puis là, je suis d'accord pour... Je lui dis clairement, oui, je veux qu'on fasse à l'acte. Puis, finalement, à un moment donné, je n'ai plus envie, puis là, je fais comme non. Mais comme lui, il continue, puis ça devient un viol. Mais quand je vais voir les policiers, est-ce qu'ils vont me dire,
peut-être,
oui,
fuck you,
t'as subi
les conséquences? En théorie, les policiers devraient prendre votre plainte. Parce que oui peut devenir un non à n'importe quel moment. Et ça, la Cour a été très claire là-dessus. En pratique, comme je vous dis, les policiers sont confrontés au fait que lorsqu'ils amènent des accusations pour agression sexuelle, eux, ils savent qui va arriver au bout, et ils savent qu'ils ont deux fois moins de chances d'obtenir des condamnations. Donc, ils ont une tendance naturelle, puis bon, ça les excuse pas, mais ça les explique, à vouloir avoir la victime, mais la plus parfaite possible. Parce qu'une victime parfaite, que c'est clair du début à la fin qu'elle voulait pas, qu'elle était vraiment, qu'elle avait pas permis au gars de rentrer, puis il est rentré sans sa permission. Et tout ça, c'est magnifique, parce que c'est un beau... cas clair, puis là, on va amener ça en cours, ça va bien aller, on va obtenir une accusation. 80 % des cas ne sont pas clairs. Dans 80 % des cas, comme je vous dis, ça revient à ce que je vous disais au début, cette espèce de mythe-là de l'agresseur en série qui rentre chez vous par une fenêtre et les policiers peuvent même fantasmer là-dessus, mais c'est pas la réalité. Donc, Et les policiers vont toujours évaluer, puis c'est triste, mais ils font pour un paquet d'autres choses, ils évaluent la crédibilité de la victime. Ils vont vous regarder, ils vont vous dire, OK, un juge, vas-tu la croire? Puis s'ils trouvent que non, c'est triste. Oui. C'est l'état de la jurisprudence, c'est les décisions de la Cour, c'est les décisions prises depuis... Depuis un an, la Cour suprême s'est prononcée de façon très claire sur ce qu'est le consentement. Oui, j'avais monsieur ici.
Mais quand même, même si les policiers, ils ne veulent pas faire le rapport, comment ça se fait qu'ils ne sont pas obligés au moins de dire c'est quoi les droits de la personne? C'est ça qui me fait chier. Tu vas les voir, OK, ils ne vont pas faire de rapport, mais personne ne veut expliquer les droits de la personne dans cette situation. Je trouve que c'est ça qui est plus emmerdant.
Sûrement qu'on aimerait qu'ils aient davantage ce rôle-là d'être aidant de façon générale à l'égard des gens. Je pense aussi... Là, je m'adresse vraiment à un crowd sceptique. Mais c'est vrai, mais parce qu'on vend cette idée-là que les policiers sont là pour nous protéger et nous aider. Mais en même temps, non, mais regardez... faut pas perdre de vue que c'est aussi une responsabilité collective. Je pense qu'il faut aussi, puis c'est bien des journées comme aujourd'hui, moi je trouve ça extraordinaire, c'est pour ça que j'étais très contente, puis je suis contente d'être ici parce que ça, ce qu'on fait, ce que vous faites aujourd'hui, c'est important et c'est un pas dans la bonne direction. Et les policiers sont des gens comme vous qui ont besoin d'être éduqués aussi, comme vous. Et c'est... Oui, et c'est un peu votre travail et c'est un peu notre travail à tous de faire ça. Donc c'est vrai que c'est chiant, mais il y a de l'espoir quand même. Oui.
Dans quelle mesure, si le policier dit non, ton gars n'est pas super mort, est-ce que tu peux forcer le système à aller en cours? Est-ce que tu as insisté pour que ton gars aille en cours? C'est qui prend cette décision-là au final de ce que le cas va aller en cours ou pas? Dans un petit criminel, bien évidemment.
Émilie va revenir sur tout le processus, mais elle va te répondre un petit peu tout de suite, puis on va revenir aussi en détail là-dessus.
Bien, je te répondrai qu'on va en parler vraiment beaucoup.
C'est qu'il faut que tu restes encore, c'est ça le message.
Un autre 20 minutes,
j'aime bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Parce que là, je vais rentrer en détail. Là. On va parler du consentement d'hier à aujourd'hui. Vous allez voir, là, vous allez sortir d'ici, vous allez tout savoir ce qu'il y a à savoir sur le consentement. Donc, le consentement, là, c'est au cœur de l'affaire. C'est le nerf de la guerre en ce qui concerne toute la question de l'agression sexuelle. Ce qu'il faut mettre en perspective, c'est que pendant longtemps, le rapport sexuel s'inscrivait vraiment dans une relation de pouvoir hétéronormée. Donc, ça visait autant à assujettir les femmes à une certaine perspective de la société, de sa place dans la société, dans la famille, en tant que reproductrice et tout ça, que à contrôler et à normifier aussi les gens qui n'étaient pas par ailleurs hétérosexuels et qui avaient peut-être d'autres idées sur comment vivre leur sexualité. Donc, l'activité sexuelle était vraiment intégrée et normée dans une société où on prenait pour acquis que l'activité sexuelle est avant tout au service des hommes. Parce que c'est la reproduction, parce que c'est et là, il y a toute une littérature là-dessus, là, je vous ferai grâce de la littérature sur comment l'égalité démocratique entre les hommes a été une perte de pouvoir pour les femmes parce qu'il fallait que tout homme puisse être le roi de son château. Et bon, c'est fascinant, c'est Rosane Vallon, entre autres, qui disait ça, ça a été... La démocratie au 19e siècle, ça a été une bien mauvaise nouvelle pour les femmes, ce qui est un petit peu paradoxal. Mais, donc, tout ça est dans ce contexte-là où on fait aussi la promotion d'une image masculine basée sur l'agressivité, sur la combativité, sur la conquête. Et à l'inverse, on dénigre des images masculines qui ne correspondent pas à ça. Adam, charmant, gentil, qui s'arrête dès qu'on lui dit non, c'était pas le modèle. On ne pense pas que Adam, gentil, qui s'arrête dès qu'on lui dit non, va avoir le potentiel de devenir un président d'entreprise. Et pourtant, peut-être que ce serait plus le fun que ce soit lui qui soit président d'entreprise, mais bon. Mais ça, c'est ça aussi, un modèle général. Et
président de la banque mondiale.
Oui, mais ça serait un bon changement, en tout cas pas DSK. Il ne sera plus, DSK ne sera plus président de quoi que ce soit, pour un petit bout. Donc, il y a toute cette idée-là du modèle et à l'inverse, il y a un modèle où on dénigre le droit de la femme à exister dans l'espace public parce que, et c'est toute une œuvre, c'est toute une œuvre de déconstruction finalement ou de construction de l'image de la femme pour garder l'idée des rôles et l'idée des sexes comme on les veut ou comme on pense qu'ils devraient être. Puis il y a une naturalisation, la religion participe à ça. Beaucoup, beaucoup d'acteurs et c'est très complexe, la question des contraintes sociales. Au 19e siècle, le résultat de tout ça, c'est que le viol, premièrement, n'existe pas entre conjoints. Une femme mariée ne peut pas se plaindre de viol contre son mari. Elle n'a pas le droit de porter plainte pour viol contre son mari. Le viol n'existe pas si vous n'êtes plus vierge, parce que vous n'avez plus rien à perdre. Voilà. Alors, ça n'a pas vraiment de... Donc, une femme publique, une femme qui a des relations sexuelles avec des hommes sans être mariée, que ces relations-là soient payées ou pas, ne peut pas porter plainte pour viol. On ne peut pas considérer qu'elle a été violée. Donc, vous voyez que finalement, le nombre de femmes qui peuvent porter plainte pour viol est assez limité, en partant. Mais ce n'est pas tout parce qu'on considère que les femmes, et ça c'est de façon générale, sont des témoins non crédibles. Les femmes sont des créatures fragiles, elles sont sujettes à des, vous savez, à tous les mois, là, à ces gros problèmes intenses qui les rendent semblables à des espèces de petites bêtes sauvages. Là. Et on ne peut pas leur faire confiance. Elles peuvent, par pure jalousie, mauvaise humeur, lever du mauvais bord du lit le matin, décider de porter plainte contre un homme, parce que c'est comme ça, les femmes sont des petites créatures. On les aime, mais elles sont un peu imprévisibles. Et, bon. Alors, jusqu'en 1975, une plainte pour agression sexuelle qui n'est pas corroborée est déclarée moins crédible d'emblée. Et ça veut dire en clair qu'une femme qui porte plainte pour agression sexuelle, s'il n'y a pas de témoin de son agression, le juge va devoir aviser le jury qu'il doit prendre en considération que cette plainte est sans doute moins crédible. Parce qu'on ne peut pas être sûr, parce qu'il n'y a pas de témoin pour nous garantir qu'elle n'est pas en train de péter une coche. Oui.
Les jurys uniquement composés d'hommes à ce moment-là aussi?
Jusqu'en 64, les jurys sont uniquement composés d'hommes, oui. Oui, ça va super bien.
71,
c'est au Québec. Oui, au Québec, 71.
75, on est dans la limite.
Oui. Donc, ça, première des choses. Deuxième des choses, la plainte doit être faite dans les heures qui suivent l'agression. Parce que plus on attend, bien, plus ça veut dire que finalement, elle voulait, mais qu'elle a changé d'idée. Parce que si elle ne voulait pas dès le départ, bien, elle savait qu'elle ne voulait pas. Donc, elle porte plainte tout de suite. Si elle porte plainte plus tard, bien, c'est peut-être... Mais là, ça ne veut plus rien dire, parce que si elle avait été non consentante dès le début, ça se serait su. Donc, jusqu'en 85, une plainte qui n'est pas déposée dans les heures, voire dans les 24 heures qui suivent une agression sexuelle, va être considérée d'emblée comme à peu près non crédible. Et plus il y a une distance entre le moment de l'agression et la plainte, plus les chances d'obtenir justice pour la plainte tombent à zéro. Et c'est vraiment une réforme profonde et majeure du Code criminel du Canada à partir de 83 et en 85 qui va permettre justement, qui va enlever cette obligation-là de porter plainte dans les heures qui suivent. Parce que c'est tellement, si vous portiez plainte 48 heures ou une semaine plus tard, on ne recevait pas votre plainte. Et c'était la loi qui était conçue comme ça. C'était prévu au Code criminel. Et jusqu'en 85, il était possible, dans le cadre d'une défense pleine et entière pour l'agresseur, d'avoir recours au passé sexuel de la victime pour faire la preuve de son consentement. Donc, on a déjà eu des rapports sexuels le mois dernier. Elle a eu des rapports sexuels avec d'autres hommes, etc., etc. Et c'est vraiment en 85 où là, le législateur va devenir clair. Il va dire non, il n'y a pas d'accès au passé sexuel de la victime. Malheureusement, dans les années 90, il y a une décision qui s'appelle Ciboyer contre la Reine, où là, on va devoir faire une espèce d'exception un peu à tout ça, parce que dans l'affaire Ciboyer, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est accusé de l'agression sexuelle d'une jeune femme. Et dans l'accusation d'agression sexuelle, il a été mis en preuve par la couronne que la jeune femme avait des marques de l'agression. Et monsieur va vouloir aller dans le dossier médical de madame pour démontrer que certaines de ces marques-là étaient antérieures au viol. Mais on comprend ici que ça ne remet pas en cause la question du consentement, ça ne remet pas en cause la question qu'il y a des marques qui sont reliées au viol. Mais parce qu'on croit à la défense pleine et entière et tout ça, donc la Cour suprême va donner raison aux avocats de monsieur Ciboyer, ce qui fait que le législateur va devoir ouvrir la possibilité pour les agresseurs d'avoir recours aux dossiers médicaux de la victime s'ils peuvent faire la démonstration au juge que ça permet d'éclairer l'état d'esprit de la victime par rapport au consentement. Par ailleurs, il faut dire que le législateur a fait un gros effort pour limiter ça au maximum et faire en sorte que, bon, premièrement, il faut que ça passe, on fait ça en huis clos d'abord, il y a un voir-dire qui s'appelle en droit, où le juge seul va entendre l'argument de l'avocat de la défense. Et l'avocat de la défense va devoir faire la démonstration que cette preuve-là est vraiment utile. Et bon, bref, pour essayer d'installer des filtres, parce que depuis 75 et depuis 85, il y a un changement de perspective qui s'est établi chez les politiciens puis dans le public en général. Puis ça a été beaucoup le travail des mouvements féministes au cours des années 70 pour dire qu'on ne veut plus du discours de la victime responsable du crime. Et c'est depuis les années 80, vraiment, où là est rentré comme une espèce de prise de conscience dans le public en général, chez les politiciens particulièrement, grâce au travail des groupes de femmes et des mouvements de femmes, que contrairement à toute la construction sociale antérieure, peut-être que ce n'est pas de la faute de la victime si elle s'est fait agresser. Et il faut penser que jusqu'à là, il y avait toujours eu un positionnement où c'est l'agresseur qu'on défend, pas la victime. Dans un contexte où les agresseurs sont des hommes, les victimes sont des femmes, les agresseurs sont les éléments dominants de la société, ils sont dans l'espace public, ils ont des familles à faire vivre, ils ont des jobs sérieuses et on ne peut pas les envoyer en prison pour rien. Donc, c'est eux qu'on va protéger et les victimes qui sont moins importantes pour la société, moins importants et d'ailleurs qui sont moins crédibles parce qu'elles sont toujours un petit peu à moitié dérangées par leur PMS, on ne peut pas quand même, puis bon, puis en plus de ça, si elles s'habillent comme des prostituées, puis bon, elles ne sont pas des bonnes mères de famille. Bref, c'est à partir des années 80 où là, vraiment, s'opère une espèce de prise de conscience et un changement des mentalités. Et Ça a été difficile pour les tribunaux, ça a été difficile pour tout le monde. Et on va le voir à travers les années 90, il y a plusieurs décisions. Bon, Ciboyer, je vous en ai parlé. Il y a une décision vraiment importante qui s'appelle Ewanchuk à la fin des années 90, où là, vraiment, tous les préjugés à l'égard de ce qu'est le consentement à une femme qui mérite qu'on la croie, une femme qui ne mérite pas qu'on la croie, va rentrer en collision dans une cause qui vient de l'Alberta, où c'est un entrepreneur qui va agresser sexuellement une jeune femme à laquelle il avait fait passer une entrevue pour un emploi. Et l'agression, c'est il l'amène voir des plans, parce que c'est un entrepreneur, il travaille sur des trucs, il l'amène voir des plans. Et pendant qu'il lui fait regarder les plans, il lui fait des avances, et là, j'ai dépassé mon temps. OK, merci. Il lui fait des avances, et elle dit non, et il continue, et elle dit non, et il continue, et elle dit non, et il continue. En fait, lui, ce qu'il va expliquer par la suite, c'est qu'il avait interprété ce nom-là, qu'il admet avoir entendu, comme étant, comme voulant dire, c'est parce que tu ne t'y prends pas de la bonne façon. Bon, voilà. Et finalement, la jeune fille va finir par partir et elle va finir par porter plainte. Il va être condamné en première instance. La Cour d'appel de l'Alberta va l'innocenter sous la thèse de ce que la Cour d'appel de l'Alberta va appeler le consentement tacite. Ils ne peuvent pas démontrer qu'elle n'a pas dit non. Elle a dit non, puis elle a dit tellement clairement non que même lui, quand il va faire sa déposition auprès de la police, il va admettre qu'il a clairement entendu qu'elle avait dit non, puis qu'il savait qu'elle avait dit non. Donc, c'est sûr que l'avocat de la défense ne peut pas plaider la croyance erronée mais sincère. Donc, mais qu'à cela ne tienne, les avocats de la défense sont très créatifs. Il va plaider que son non-verbal était en opposition avec son verbal et qu'il y avait comme une espèce d'état de consentement tacite de la victime parce que c'était une jeune fille très libre de mœurs, parce qu'elle vivait dans une relation non-maritale et qu'elle avait un enfant et parce qu'elle vivait dans une commune et qu'ils étaient plusieurs. Puis, mon Dieu, qu'on ne savait pas ce qui se passait dans cette commune-là.
Puis, elle ne vivait pas avec le père de son enfant.
Non, elle ne vivait même plus avec le père de son enfant. Un truc de plus. Et la Cour d'appel de l'Alberta va donner raison à l'avocat de M. Ewanchuk et va innocenter M. Ewanchuk en achetant cette thèse du consentement tacite. Et d'ailleurs, le juge McClung, qui rédige pour la majorité, va écrire des choses absolument extraordinaires, du genre « Madame ne portait quand même pas une crinoline, elle portait une camisole sans soutien-gorge. C'est pas une invitation à se faire violer, ça, je vous demande, c'est quoi? » Donc, bref, c'est Wonderbra qui payait le salaire du juge McClung. Donc, et finalement, bon, ça va être renversé par la Cour suprême. Il me semble dans un jugement unanime, j'ose espérer, oui, OK, merci, j'ai eu peur pendant un moment. Ça va être renversé dans un jugement unanime, et là, c'est la fin du consentement tacite. Là, la Cour, pour une première fois, elle dit clairement, écoutez, là, il n'y a pas, ça n'existe pas. Elle disait non, elle voulait dire oui. Et moi, je me souviens, à l'époque, je commençais mes études en droit quand ce jugement-là est sorti, puis il y avait plein de monde qui disait, mais oui, mais c'est parce que des fois, tu dis non, c'est dans une perspective de séduction. Et je me souviens même d'une jeune femme qui était l'amie d'une amie, mais pas mon amie à moi, qui m'avait dit comme ça, la bouche en cœur, oui, mais des fois, quand je dis non à un homme, c'est juste parce que je veux l'inviter à faire travailler plus fort. Puis là, je l'avais regardée, j'avais dit, ma chérie, écoute, si t'es trop niaiseuse pour lui dire ce que tu veux vraiment, ben c'est pas son problème à lui, c'est le tien. C'est que si tu dis non quand tu veux dire oui, puis il s'arrête, ben too bad, t'avais juste à dire oui. Et c'est ça que le jugement Ewanchuk veut dire. Et à l'inverse, bon, c'est vrai aussi de l'autre côté de la clôture. T'sais, si elle dit non puis qu'elle veut dire oui, ben tant pis pour elle, mais c'est pas une bonne idée de prendre des chances, mettons. T'sais, bon. Et ça avait causé un gros traumatisme social et Ewanchuk. Socialement, c'était pas clair que la société était prête à recevoir ça. Il y a eu, entre autres, une association de mères, Real Women of Canada, des femmes que j'adore personnellement. Elles ont un site Internet, je vous invite à aller le voir, qui avait fait un article contre la juge Laurie Dubé, qui avait écrit un jugement particulièrement dur et qui avait dit qu'on allait faire de toute une génération de jeunes hommes des moumounes peureuses parce qu'ils n'oseraient plus parler à une fille, parce qu'ils allaient totalement être traumatisés à l'idée de se faire accuser d'agression sexuelle. Parce que n'oubliez pas que les femmes portent des accusations pour tout et n'importe quoi, n'est-ce pas? Donc, c'est certain qu'un gars qui met sa main par accident sur la cuisse d'une fille, il est fini! Il est fini! Non, mais bon. Bref, ça ne s'est pas passé. Il n'y a pas eu de hausse vertigineuse des plaintes en agression sexuelle dans la série des Ewanchuk, même qu'au cours des dernières années, même si le taux d'agression sexuelle demeure stable, le niveau de plainte, lui, diminue. C'est-à-dire que les filles portent plainte pour des oui, pour des non, là, bref.